il y a des millions de personnes, en particulier en situation de vulnérabilité économique, qui tournent toute leur vie en travaillant comme un hamster dans sa roue. Tu vois. Sauf que si on veut leur permettre de sortir de leurs conditions, il faut essayer d'identifier où est-ce qu'ils vont pouvoir maximiser leur potentiel et quelle est leur place. Et avec le pouvoir du croisement entre technologie et psychologie, on peut créer un business model qui est financièrement indépendant et qui ne dépend pas de philanthropie et avoir un impact à une échelle mondiale. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je vais aider Ludovic et ça va fonctionner. Et donc là, je suis descendu de scène, j'ai récupéré 150 cartes de visite des gens qui étaient là. Le lendemain, j'ai eu une réunion avec Emmanuel Faber et le surlendemain, j'ai une réunion avec Younous qui a accepté de devenir le président d'une boîte qu'on a montée ensemble qui s'est, par le futur, appelée Chance. Et je suis reparti à San Francisco, j'ai démissionné et voilà comment c'était lancé.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Ludovic de Romar, le cofondateur et CEO de Chance, qui pour moi est un instrument qui permet de faire de l'égalité de chance une réalité et quelle que soit la couche sociale dans laquelle on se retrouve, le secteur, le milieu, le pays, et on va en parler pendant cet épisode. Salut Ludovic, ça va?
Salut Guy, merci de ton invitation.
Nice. Ludovic, j'aimerais que tu nous pitches un petit peu en quelques lignes ce que c'est que Chance, que tu nous racontes un peu comment est-ce que tu as lancé ça, le contexte. Mais avant, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement?
Avec plaisir. Ludovic, donc j'ai 34 ans. Je viens de Beauvais. Dans le Nord, mon père est français, ma mère est égyptienne, sa famille italienne-libanaise.
Ah ouais.
Et j'ai grandi à Beauvais jusqu'à l'adolescence. Ensuite, j'ai étudié en France, puis en Argentine. Et après, j'ai commencé à travailler aux Émirats Arabes Unis, puis ensuite en Californie, puis ensuite au Brésil et maintenant en France.
Waouh. Profil assez protéiforme quand même. Yes. Tu peux nous donner un petit peu le contexte de Chance. Tu peux nous pitcher Chance en quelques lignes. Qu'est-ce que c'est Chance? Et ensuite, comment est-ce que tu lances?
Bien sûr. Chance, c'est né. Et tu vois, c'est ce qui m'anime, ce que j'ai envie de faire de ma vie. C'est d'essayer de contribuer à l'amélioration de l'égalité des chances et de la mobilité sociale. Mmh. Et tu prends un pays comme la France. Aujourd'hui, si tu fais partie des 25% des Français et des Françaises aux salaires les moins élevés, il va falloir en moyenne 6 générations à ta descendance pour passer au-dessus du salaire médian. Les 6 générations, c'est 2 siècles. Tu vois, et pour donner un point de comparaison, au Danemark, c'est 2, en Espagne, c'est 4. Donc en gros, il n'y a pas de mobilité sociale statistiquement en France. Et donc, la théorie d'impact de chance, c'est de dire l'engagement au travail, le fait de vibrer dans ton travail, est une condition qui est nécessaire pour performer au travail. Et performer au travail, une condition nécessaire pour la mobilité professionnelle, pour être promu et accéder à la mobilité sociale. Et donc, le meilleur truc qu'on puisse faire, le meilleur levier qu'on puisse activer pour essayer de contribuer à l'amélioration de la mobilité sociale et l'égalité des chances, c'est de permettre l'engagement au travail de toutes et tous, en particulier des 25% des Français et Françaises aux salaires les moins élevés. Et du coup, qu'est-ce qui bloque l'engagement au travail? Tu as des barrières internes. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que le monde peut avoir à m'offrir qui est aligné avec qui je suis. Et tu as des barrières externes qui sont en France, tu vois, si tu as un parcours non linéaire, tu vois que tu ne rentres pas exactement dans les cases, tu n'as pas fait exactement le même job avant, alors avoir les compétences ne suffit pas pour être reçu en entretien. Tu vois de quoi je parle?
Bien sûr.
Et avoir l'envie non plus. Et à cela vient s'ajouter toutes les discriminations illégales des discriminations illégales qu'on connaît, religion, orientation sexuelle, etc. Et qui, tout ça, c'est les barrières externes. Et donc, pour permettre l'engagement au travail dont je te parlais de toutes et tous, il faut travailler sur les barrières internes et barrières externes. C'est ce que fait Chance. Mmh. Et donc, à partir de là, sur les barrières internes, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas quelle est ma place dans ce monde, on a développé depuis 7 ans un parcours de coaching digital pour choisir le travail aligné avec qui tu es. Et ça, c'est un parcours d'une trentaine d'heures dans lequel, qui est en ligne complètement, dans lequel tu as une triple dynamique. Tu as de l'auto-coaching, donc 23 heures à faire seul sur ton téléphone, ton ordinateur, 7 heures avec un ou une coach pro choisi sur la base de ta personnalité en vidéo, donc 2-3 heures d'auto-coaching, 1 heure de vidéo-coaching, 2-3 heures d'auto-coaching, 1 heure de vidéo-coaching. Et tu vois, la métaphore pour bien comprendre ce qu'on fait, le savoir-faire de chance, c'est la métaphore du chirurgien et de la chirurgienne. C'est-à-dire qu'on fait faire par la machine tout ce que la machine peut faire au moins aussi bien que l'humain. Tu vois, c'est l'équivalent des IRM, des scanners, des radios, etc. Ça, c'est l'auto-coaching. Et ça vient nourrir par la data le ou la coach pro qui peut intervenir pour le coup sur ce que seul l'humain peut faire et en aucune façon la machine, à l'image du chirurgien ou de la chirurgienne. C'est-à-dire venir travailler sur un blocage psychologique, venir travailler sur une croyance limitante, venir travailler sur une peur, etc. C'est comme ça que tu as ce dialogue entre homme et machine pour essayer d'accompagner au mieux tout un chacun. Et la troisième dynamique, c'est la communauté. Et c'est ce qui est en train de se développer à vitesse grand V. C'est-à-dire que dans ton parcours de 30 heures qui se fait en gros en 3 mois, tu es en contact, tu vas avoir l'intervention de 13 personnes externes. Il y en a 5 qui sont ce qu'on appelle mon cercle. C'est un sort de board personnel de ta vie personnelle passée ou professionnelle passée qui vont te faire un retour en 360 sur toi et puis qui vont t'accompagner tout au long. Et puis, 8 personnes de la communauté chance qui, quand tu vas explorer des pistes de travaux particuliers, vont venir t'apporter de l'information granulaire. Je suis un peu en train d'allonger, tu m'as demandé en quelques lignes.
Non, c'est hyper intéressant d'avoir cette visibilité 360 du parcours. J'allais y revenir de toutes les façons, donc c'est important que tu mentionnes ça. On va revenir sur comment est-ce que tu lances ça, en tout cas le contexte, vu que je ne sais pas si c'est quelque chose auquel toi-même tu étais confronté, le fait de savoir peut-être qui tu es, ou qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Et puis, mais avant, j'aimerais que tu nous dises un petit peu... pourquoi est-ce que, déjà, ce nom de domaine chance, comment est-ce que l'idée te vient, tu vois? Parce que moi, je trouve que c'est tellement parlant, ça veut tout dire, en fait. Que, déjà, c'était libre ou tu as dû l'acheter hyper cher?
C'était libre.
Ah ouais?
Il y avait chance.com, qui est un site chinois, qui ne fait pas du tout la même chose. Et en fait, c'était il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et à ce moment-là, il était 2h du mat. On s'est rendu compte que c'était libre. On a acheté tous les domaines qui ressemblaient à chance et on a foncé, quoi.
Ah, vous n'avez pas pris que le .co?
Il n'y avait pas .fr. On a pris chance app. On a pris un peu n'importe quoi pour te dire la vérité. C'est-à-dire qu'on a pris chance avec un 3 à la fin, c'est-à-dire le E retourné. On a acheté chanceapp.org. On a acheté tout ce qu'on pouvait acheter. On l'a acheté, ce qui était un peu con. Et ça ne coûtait rien du tout. Mm-hmm. Mais in fine, aujourd'hui, on a 2 domaines qui sont intéressants, c'est chance.co et chance.social.
Ah ouais,
c'est ça. Et on était fort sur chance.social, mais en fait, c'est pas du tout habituel comme nom de domaine. Et du coup, les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est un site internet. Ils se disent que c'est autre chose, ils disent c'est chance.social.
Et c'est quoi la suite? Ouais, ils se disent que c'est un sous-domaine, il manque un point com peut-être à la fin.
Exactement. Et du coup, on est revenu sur le chance.co sans M.
Ah d'accord, nice. Donc, dis-nous, comment est-ce, dans quel contexte est-ce que tu lances ça? D'où tu déjà t'as bossé un petit peu ou après tes études directement tu t'es lancé dans une aventure entrepreneuriale?
J'ai bossé. Mon premier boulot c'était d'aller lancer une usine de fabrication de bouteilles aux Émirats Arabes Unis.
Wow.
Et j'étais en charge de toute la partie non technique. Donc c'était à Ras Al Khaimah, qui est un des 7 Émirats arabes au nord de Dubaï, à 1 heure au nord de Dubaï. Mmh. Et j'étais en charge de toute la partie non technique et notamment de recruter 200 collaborateurs, collaboratrices. Et donc ça m'a amené à aller mener un peu plus de 1000 entretiens personnellement en Inde, aux Philippines, au Sri Lanka, en Arabie Saoudite, au Pakistan, au Népal, tu vois, partout autour des Émirats, là où les gens avaient de l'expérience en fabrication de bouteilles. Mmh. Et donc, ce dont je me rendais compte, c'est que, tu vois, on a une conversation comme ça, tu checkes les compétences techniques du candidat, mais ensuite, ce que je voulais savoir, c'est: est-ce que la personne va y aller avec son cœur? Parce que c'est ça qui va faire l'engagement demain dans son boulot et c'est ça qui va faire sa performance. Et moi, en tant que recruteur, mon rôle était d'essayer de prédire ou de juger de la performance future du candidat ou de la candidate.
Au-delà des skills.
Au-delà des skills. Ouais. Et donc, les skills, ce n'est pas le plus difficile à mesurer. Tu arrives à comprendre assez vite si la personne, notamment technique, si la personne les a. Mais ensuite, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'elle va y aller avec son cœur. Et donc, quand je demandais aux gens pourquoi est-ce que vous faites ce métier, pourquoi est-ce que vous faites ça, pourquoi est-ce que vous voulez nous rejoindre, en gros, 95% des gens ne savaient pas. Ils me disaient, ouais, je fais ce métier parce qu'il y avait un job, parce que mon cousin travaillait là, parce que la vie m'a amené là un peu par hasard. Et donc, là, moi, j'étais du haut de mes 24 ans avec mon petit stylo. Par exemple, pour les candidats en Inde, on multipliait par 4 leur salaire. Donc, tu vois, tu changes la vie de la personne en face de toi si tu le prends. Et tu changes la vie de ses enfants et des enfants de ses enfants. Donc, c'est majeur en matière de responsabilité. Mais en gros, sachant que la personne en face de moi, elle-même ne savait pas si elle allait être engagée, qui étais-je pour en 30 minutes essayer de l'imaginer? C'est impossible, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir en me disant, mais en fait, tout ce monde de la gestion de carrière et de recrutement est complètement dysfonctionnel et c'est dans l'intérêt de personne en fait. Les gens potentiellement tournent dans leur roue comme des hamsters toute leur vie à faire un truc qui n'est pas du tout le bon truc pour eux sans le savoir.
Sans se poser la question même, parce que c'est pas. Tu fais quoi, tu es juste dans. Tu do it, mais tu ne sais pas exactement pourquoi est-ce que tu dois le faire parce que la société t'a dit que tu dois faire quelque chose quoi.
Et parfois, c'est intéressant, c'est parfois tu te poses la question, mais en fait c'est une question tellement complexe qu'il y a un milliard de sous-questions et c'est hyper complexe comme sujet. Quelle est ma place? Bah, okay, une fois que tu l'as posé, ça te fait une belle jambe, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui ne se la posent pas, il y a des gens qui se la posent de plus en plus, mais qui sont effrayés par cette question trop complexe et qui font la politique de l'autruche. Et puis, il y a la nouvelle vague, c'est-à-dire les gens qui essaient de se la poser de manière structurée. Et c'est ce qu'on essaie de pousser pour accompagner tout un chacun, quel que soit son passé, à ce que, pour le coup, son passé dicte pas son futur, et pour aider tout un chacun à trouver sa place dans ce monde.
Yes. Donc, tu bosses pour cette boîte-là et tu fais face à cela. Est-ce que de suite, tu sais un petit peu comment est-ce que tu vas formaliser? Est-ce que tu vois déjà ça comme une boîte déjà? Est-ce que tu vois ça comme, est-ce que je vais créer une boîte ou alors est-ce que je vais davantage creuser le sujet ailleurs pour davantage...
Pas du tout une boîte à ce moment-là. Mon problème, c'était de recruter les 200 personnes. Tu vois, j'ai été focus là-dessus.
Ouais, mais t'as identifié quand même quelque chose pendant ce process de recrutement.
C'était un problème pour moi. Je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, mais je le regardais du point de vue du recruteur. Et ensuite, on a fini par recruter tout le monde. J'ai été transféré pour être CEO de la filiale d'Amérique du Nord à San Francisco, tu vois, à Napa, qui est Napa Valley, qui est la vallée du vin au nord de San Francisco. Et j'ai repris des études de psycho pour faire un master de psycho appliqué le soir et le week-end là-bas pendant un an.
Comme ça
Là, pas.
C'est un coup de tête. Pourquoi est-ce que tu allais faire ces études? Pourtant, tu avais déjà un job, tu avais déjà un truc.
Par intérêt, par curiosité. Tu vois, la psycho, c'est toujours un truc qui m'avait intéressé. Et en fait, il y a toute une école de psychologie à Santa Cruz, à côté de San Francisco. Et je me suis dit, c'est le moment de ma vie où je vais vivre ici. C'est l'occasion d'essayer d'apprendre ça. Et c'était possible de faire ce master le soir et le week-end. Donc, j'ai fait ça.
Ah, d'accord.
Et en parallèle, j'ai découvert la tech parce qu'à San Francisco, si tu t'intéresses pas à la tech, tu n'as pas de potes. Quoi. Donc, ce n'est pas du tout mon monde, mais il a bien fallu que je m'y mette. Et puis, là-bas, je recrutais des profils hyper qualifiés, des directeurs commerciaux, etc. Parce qu'on retournait toute la filiale. Ouais. Et en fait, ce dont je me rendais compte, c'est que je posais la question aux gens, ouais, bon, ok, d'accord, vous avez un track record de directeur commercial, vous avez, ok, les chiffres parlent par eux-mêmes, donc vous savez faire le job, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous voulez nous rejoindre? Pourquoi est-ce que vous allez le refaire pendant 5 ans, puisque vous l'avez déjà fait pendant 5 ans? Et là, alors, storytelling à l'américaine, tu vois, that's just job of my life, blablabla, super bien entouré.
Ils sont trop forts. Hein, c'est...
Trop forts, et que je t'enrobe ça avec du chocolat partout, et in fine, j'ai fait des erreurs de recrutement massives. Et à ce moment-là, je commençais à parler avec mes potes en France, notamment ceux qui avaient fait des écoles de commerce, qui ensuite avaient fait, étaient entrés dans des grandes boîtes, avaient, ou allaient faire du conseil, ou allaient faire de la
M&A, fusion acquisition.
Du M&A, etc. Et qui, donc, continuaient à faire des trucs généralistes parce que c'est ce qu'il fallait faire.
Sécurité.
Leur environnement leur dictait de faire, ou la société leur dictait, ou ils avaient une image de ça. Et puis, ils se retrouvaient à la trentaine à dire, mais en fait, je n'ai pas encore choisi. Je n'ai pas fait de choix. J'ai fait un peu des non-choix. Et donc, ils commençaient à se questionner. Et c'est là que je me dis, mais en fait, toute la majorité des personnes sur cette terre passent la majorité de leur temps éveillé à faire un truc auquel ils ont finalement très, 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 très peu réfléchi. Et c'est absurde. C'est ça. On passe des années et des années à l'école à apprendre de la connaissance, mais la connaissance de soi et la réflexion de où suis-je dans ce monde professionnel, c'est rien, c'est quasiment rien, c'est complètement non structuré. Tu vois, t'as, au lycée, tu as un conseiller ou une conseillère d'orientation. Est-ce que tu en as vu un ou une? Peut-être deux heures.
J'ai une image, je crois que c'était en sixième, c'était la seule et l'unique fois où j'ai eu un contact avec un conseiller d'orientation.
Bah voilà. Fois.
Et j'arrive même pas à me rappeler. Je sais même pas comment. Je sais que pour mon orientation, mes parents ils disaient les filières, si tu vas dans les filières scientifiques, tu auras les portes ouvertes sur tout quoi. Donc j'ai fait série C, bac scientifique, donc toujours pour avoir ce truc de sécurité. Et, parce qu'on dit que okay, les matières littéraires, c'est pour être recruté par le gouvernement. Le gouvernement ne peut plus recruter, ils n'ont pas assez de place. Va vers les sciences. Mais je ne sais pas répondre pourquoi est-ce que j'ai choisi cela. Je n'étais pas forcément, même si je n'étais pas mauvais, mais ce n'était pas forcément le truc qui me faisait le plus kiffer, quoi. Je le faisais parce qu'on me disait que c'est ce qu'il fallait faire, quoi.
Et tu vois, aujourd'hui, c'était quand on s'est rencontrés, tu me parlais du podcast, qui est un des projets qui te tient hyper à cœur, qui est tout un nouveau pan d'activité. Comment est-ce que ça s'organise? C'est un side project aujourd'hui. Est-ce que ça va toujours être le cas? Est-ce que ça peut se transformer? Comment est-ce que ça se met avec les autres projets de vie, etc.? Ça, c'est extrêmement complexe. Mais t'es dedans, là.
Ouais, c'est beaucoup de compromis, hein. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de... je ne sais pas comment, dans les détails, ça se traite chez Chance, mais il faut... Il y a plein de trucs refoulés qu'il faut accepter de regarder en face. Et ça, c'est dur.
Bien sûr. Bien sûr, c'est... Et si tu ne mets pas un peu le nez dedans de manière organisée et méthodique, il y a un peu deux alternatives. Soit tu fermes les yeux, tu fais politique de l'autruche, donc tu
refoules. Comme...
Ouais. Soit tu te mets dedans de manière inadéquate et là, tu pars en crise quoi. Parce que c'est une catastrophe. Quoi.
C'est vrai. C'est vrai.
Et burn-out ou dépression ou trucs comme ça. Enfin, je simplifie à mort, mais il y a un besoin de regarder les choses, de les accepter, de les prendre à distance et de voir ce que ça implique sur tes choix futurs.
Yes.
Plutôt que juste les mettre là et puis faire aucun choix et se laisser porter par la vie. Quoi.
Toi donc, du coup, et là, il y a quand même un lien avec ce que tu as identifié lorsque tu étais du côté des Émirats pour du recrutement et ensuite à San Francisco avec des gens qui sont plutôt qualifiés, qui sont très bons parleurs, mais au fond, et ça se voit dans leur CV, s'ils étaient heureux, ils ne devaient pas faire ces multiples changements chaque 3-4 ans. Et en plus aussi, tes potes d'école de commerce, est-ce qu'il y avait il y a un fil conducteur, j'imagine, entre ces trois couches de population qui ont, je sais pas, qui... Est-ce que c'est quelque chose qui...
À ce moment-là, je me dis, en fait, tout le monde est dans une sorte de quête plus ou moins consciente pour trouver sa place. Mmh. Et moi, le truc qui m'intéresse, c'est d'essayer d'aider les gens. C'est ça, ma finalité dans la vie, c'est d'essayer d'aider les gens qui n'ont pas eu les mêmes chances que moi. J'ai grandi à Beauvais, je te disais au tout début. Je suis fils d'entrepreneur et de prof. Et jusqu'à 10 ans, j'avais exactement la même vie que tous mes potes. Et puis à partir de 10 ans, nos vies, selon nos backgrounds, on commençait à diverger. Et ça ne s'est pas arrêté depuis. Et ça, c'est, j'avais un sentiment d'injustice. En fait, ce n'est pas normal. Alors qu'on est les mêmes, qu'en fait, notre vie soit dictée par le passé, quoi. Et c'est le thème de la justice sociale. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à 13 ans, 14 ans, 15 ans. Mais en fait, c'est là que je me suis dit, OK, je veux faire ça. Et donc, là, et ensuite, j'ai étudié l'entrepreneuriat social. Tu vois, c'était ma spécialisation. Ouais,
j'avais un fil conducteur.
C'était clair. Et quand je suis parti en Argentine, je me suis dit, je veux faire du développement économique pour les pays en voie de développement. J'ai fait un MBA avec un focus sur les économies émergentes en Amérique latine. Parce que je me suis dit que c'est par le développement économique que je pourrais avoir un impact social. Et là, je me suis dit, non, en fait, ça ne va pas par rapport à c'était une sorte de mon parcours chance sur plusieurs années.
Ouais.
Je me suis dit, mais en fait, cet environnement de travail des institutions, de l'État ou des organisations internationales est trop lent dans son fonctionnement par rapport à mon caractère où je suis impatient.
Mmh.
Et donc, je vais passer par l'entrepreneuriat social. Et là, mon idole dans la vie, c'était Mohamed Younous, qui est le prix Nobel de la paix, qui a créé le microcrédit. Tu vois, le
éminent économiste hyper connu, qui a créé une micro, la micro, je ne sais plus comment ça s'appelle, Green quelque chose.
Le microcrédit, c'était la Grameen Bank.
Grameen Bank.
Ouais.
Bangladesh.
Bangladesh. Ouais. Tout à fait, ouais, au Bangladesh. Et il a conceptualisé la notion de social business en disant, en fait, il y a les ONG, il y a des entreprises for profit dont la mission est la maximisation du profit. On peut créer et penser un nouveau modèle qui sont des entreprises, donc indépendantes financièrement, qui ne dépendent pas de philanthropie ou de donation, et dont la mission est la maximisation de l'impact social, mais qui doivent être capables de générer du profit pour être indépendantes financièrement. Et ça, moi, ça me séduisait énormément. En disant, on peut créer et utiliser les mécanismes de l'économie et de l'entreprise, et pour le faire avec un but social au-dessus.
Okay.
Et tu vois, et depuis, ça a été suivi, parce qu'il y a toutes les réflexions sur les entreprises à mission, sur les B Corp, etc. Ça a suivi, et petit à petit, c'est en train de se répandre. Parce qu'on réfléchit de plus en plus au sens de ce qu'on est en train de faire, etc.
Mm-hmm.
Et donc, j'avais lu tous ces bouquins pendant mes études, et je me suis dit, OK. Là, quand j'ai cette idée à San Francisco, on est en 2014, je me dis, je veux aller voir sur le terrain au Bangladesh comment est-ce que lui a développé concrètement les différents social business, à commencer par la Grameen Bank.
C'était une banque ou une microfinance ou les deux?
Ouais, c'était une banque, la première grande banque de microfinance.
Ah ouais, ok, d'accord.
Et il a ensuite lancé une joint venture avec Danone, pour faire des yaourts pour les enfants avec une qualité nutritive hyper forte et un coût très bas. Avec Veolia, de la désalinisation de l'eau pour pouvoir avoir de l'eau potable, etc. Et donc, je suis allé là-bas faire un voyage d'études de 2-3 semaines. Et puis, à la fin des 2-3 semaines, il y avait la journée mondiale du social business qui sont 2000 personnes qui viennent du monde entier pour parler de ce sujet. À une conférence. Et donc, la veille de cette conférence, Younous avait invité quelques délégations internationales à un dîner de gala. Et moi, je n'étais pas tout à fait invité, mais je me suis quand même démerdé pour rentrer. Et tu vois…
Tu t'es faufilé ou t'as…
Tu te faufiles dans cet hôtel et là, je rentre dans la salle et tu vois, dans le monde du social, les gens ne sont pas particulièrement fringués. Donc, j'arrive avec une chemise en jean et un pantalon vert. Et donc, j'entre dans la salle, les femmes avaient de longues robes noires, les hommes avaient des vestes limite neupapes. Je me dis, merde, Ludo, t'es complètement à côté.
Ça se voyait direct que t'étais un intrus, quoi.
Et j'avais 30 ans de moins que la moyenne des gens, donc c'était flagrant. Mais bon, et le trafic est tel, je ne sais pas si t'es déjà allé au Bangladesh ou pas?
Non, mais j'imagine, c'est comme en Inde.
Comme en Inde, voilà. Tu mets une heure pour faire 2 km, quoi. Donc, impossible de retourner à l'hôtel pour une veste. Donc, je reste là, je me tourne vers mon voisin de droite. Bonsoir monsieur, vous venez d'où? Il me dit, je viens du Kazakhstan. Ah génial, moi je viens de France, et qu'est-ce que vous faites au Kazakhstan? Il me dit, je suis ministre de l'économie. Ah génial, je suis Ludo, ministre de rien du tout. Et tu avais comme ça des gens, des gouvernements, Nations Unies, grandes entreprises, grandes fondations. Et puis finalement, Younous arrive, c'est la première fois que je vois mon idole, tu vois, arriver. J'étais comme un gosse en face du Père Noël. Et il monte sur scène, tout le monde va s'asseoir, je vais m'asseoir au fond. Et puis, il nous fait un speech super charismatique de 20 minutes, à l'issue de quoi il nous dit, écoutez, au Bangladesh, il est super impoli de commencer à dîner avant l'arrivée de tous les convives. Or, la délégation de Hong Kong est bloquée sur le trajet entre l'aéroport et l'hôtel. Et donc, il demande à ses collaborateurs, collaboratrices, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui voudrait expliquer quelque chose aux 200 personnes qui sont venues exprès pour la conférence du lendemain, tu vois? Et comme personne ne bougeait, je me suis dit, Ludo, c'est pour toi. Je me suis levé du fond de la salle avec ma chemise en jean, je me suis mis à courir entre les tables de gala et j'arrive en bas de la scène. Et là, Younous, qui est un mec super souriant, ouvre de grands yeux en disant, c'est qui ce petit jeune-là qui débarque? Et je vois au deuxième rang Emmanuel Faber, qui était le patron de, enfin, qui n'était pas encore le patron de Danone, mais qui est devenu le patron de Danone, qui était déjà une des figures en France de la réflexion de comment est-ce que l'économie peut avoir un impact positif sur la société. Et donc, là, je me dis, OK, Ludo, là, tu as ton idole, là, tu as le mec avec qui tu voudrais parler en France de ton idée, te foire pas, c'était les 5 secondes les plus longues de ma vie, donc je monte tout doucement les marches. Puis j'arrive à côté de Younous. J'avais pas l'air méchant, donc ils me prêtent le micro et je leur dis bah, bonsoir à tous, je m'appelle Ludovic, je suis français, j'ai 27 ans. Et si je suis au Bangladesh ce soir, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a écrit un bouquin qui m'a beaucoup inspiré. Et je laisse une pause, parce que dans la salle, ils avaient tous écrit 3-4 bouquins
Ouais, c'était
chacun.
tous des rockstars dans leur pays.
Tous des rockstars. Et donc je dis Emmanuel Faber, et ensuite je pitch l'idée de chance qui s'appelait pas chance pendant 15 minutes. Soit quasiment la durée du discours de Younous d'avant. Et il me
Wow,
laisse
ils t'ont
parler.
laissé. Ok.
Il m'a laissé parler. Et tu vois que j'ai pas beaucoup gagné en esprit de synthèse depuis, et puis que j'empêche les personnes de m'interrompre quand je parle, tu vois. Et donc, à la fin, Younous me prend dans les bras et dit, vous voyez, c'est exactement ça ma vision du social business. Il y a des millions de personnes, en particulier en situation de vulnérabilité économique qui tournent toute leur vie en travaillant comme un hamster dans sa roue, tu vois. Sauf que si on veut leur permettre de sortir de leurs conditions, il faut essayer d'identifier où est-ce qu'ils vont pouvoir maximiser leur potentiel et quelle est leur place. Et avec le pouvoir du croisement entre technologie et psychologie, on peut créer un business model qui est financièrement indépendant et qui ne dépend pas de philanthropie, et avoir un impact à une échelle mondiale. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je vais aider Ludovic et ça va fonctionner. Et donc là, je suis descendu de scène, j'ai récupéré 150 cartes de visite des gens qui étaient là. Le lendemain, j'ai eu une réunion avec Emmanuel Faber, et le surlendemain, j'ai une réunion avec Younous, qui a accepté de devenir le président d'une boîte qu'on a montée ensemble, qui s'est, par le futur, appelée Chance. Et je suis reparti à San Francisco, j'ai démissionné, et voilà comment c'était lancé.
Wow. Et lui, du coup, il est actionnaire de chez Chance.co en tant que
Il
président.
n'est pas actionnaire, il est président.
Ok.
Sans action. Il ne détient aucune action d'aucune société dans le monde.
Ah, j'imagine c'est pour des raisons de conflit d'intérêts vu la position qu'il a. Ok.
C'est pour ça qu'il détient aucune action.
Ben, ça reste quand
Nulle
même
part.
intéressant dans son branding d'avoir. Pas que pour le branding, hein, parce que forcément, avec le bagage qu'il a, il apporte clairement des choses utiles pour Change.co, mais quand même, Mohamed Younous sur son site internet, ça envoie du lourd, quoi.
Non, mais c'était en particulier dans tout le démarrage de chance fantastique.
Au moins pour avoir des rendez-vous, je sais pas, avec des grands décideurs, s'ils voient quand même que tu es backé par Mohamed Younous, je crois qu'il aura plus tendance à au moins t'écouter que de dire bon, écoute, petite jeune.
À fait. Exactement. Et c'est pour ça que, surtout quand tu n'as rien fait, qu'en fait c'est que des idées au démarrage. Et à part, tu vends des idées, tu n'as pas de société, tu n'as pas d'activité, tu n'as rien. Ça a énormément aidé le fait que ce soit professeur Younous le président, d'ouvrir une porte et d'être écouté exactement comme tu viens de dire. Et puis petit à petit, on développe d'autres choses qui donnent de la crédibilité à l'activité. Et donc la part relative de son importance dans la crédibilité externe se réduit, mais elle a encore énormément de valeur.
Effectivement. C'est vrai que dans un épisode, j'en ai parlé ici avec Alexandre Pachulski, je ne sais pas si tu connais de Talentsoft, donc qui a été revendu
De
à
nom, mais
CG.
je ne le connais pas personnellement.
Donc, on a beaucoup parlé des métiers qui allaient qu'allait disparaître ou du moins se faire remplacer à cause de en tout cas avec l'intelligence artificielle, le machine learning, il y aura une grosse transformation. Et moi, j'aimerais un petit peu, pas forcément opposer cela avec chance. Tu conviens avec moi quand même qu'il y a plein de métiers aujourd'hui qui sont pas forcément valorisés, en tout cas qui ne sont pas hyper sexy et qui généralement sont faits par une certaine strate de la population, par obligation, je dirais, pour la plupart du temps. Moi, j'aimerais un petit peu, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as pensé, ces gens qui sont vraiment limite paramétrés, juste, je ne sais pas si je vais dire paramétrés, mais en tout cas, qui sont conditionnés juste pour ce type de métier-là, mais qui sont quand même amenés à disparaître. Il faut bien que... je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Très bien, ouais. Et donc, ta question...
Ma question, c'est le parcours chance vis-à-vis de ces métiers qui sont amenés à disparaître ou à être transformés. Est-ce que c'est quelque chose qui a été pensé dans le parcours? Ou alors, qu'est-ce que ça représente, ces métiers-là, pour un parcours chance? Est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, peut suivre un parcours chance et se retrouver à la plonge, par exemple? Ou alors, j'exagère un peu, mais...
En l'occurrence, la plonge, je ne pense pas que ça disparaisse complètement, mais le...
En tout cas, ça...
En fait, ouais, vas-y. On définit... La réponse est oui, parfaitement. On accompagne tout type de public, un. Et deux, on travaille sur trois choses. L'alignement d'une personne avec un travail, donc avec ses aspirations profondes. Deux, la faisabilité, donc c'est les compétences et la transférabilité de ces compétences. Mmh. Et trois, ce qu'on appelle le réalisme, qui est à quel point est-ce un métier, un travail, je vais t'en parler dans une seconde, mmh, porteur sur le marché du territoire ou des territoires sur lesquels tu veux exercer. Donc, le sujet du futur du travail dont tu parles, de est-ce que c'est des métiers qui vont disparaître ou pas, c'est ce troisième aspect du marché en fait. Yes. Est-ce que c'est un marché haussier ou un marché baissier? Et donc, est-ce que c'est réaliste ou ça n'est pas réaliste? Mais je vais revenir sur comment est-ce qu'on définit un travail. Tu vois, on a tendance dans le monde à dire ouais, c'est la combinaison métier-secteur. Et on pense que c'est des conneries de ça. Ou je suis provoque exprès, mm-hmm, et je suis même fier, ce qui n'est pas pour le coup nécessaire. Mais on pense que c'est simpliste. Et on a redéfini un travail par quatre piliers. Travail égale métier, donc c'est les activités que tu réalises. Deux, finalité, c'est qu'est-ce que tu sers par ton activité professionnelle, quel est le sens. Trois, ton environnement de travail, est-ce que tu es dans un environnement hyper perfectionniste, est-ce que tu es dans un environnement qui donne beaucoup d'autonomie, est-ce que tu es très cadré, est-ce que c'est très hiérarchique, etc. Et quatre, les impératifs de vie qui sont financiers, géographiques et horaires. Financiers, il faut que je gagne tant pour pouvoir rembourser mon emprunt ou bien j'ai X enfants à charge. Mmh. Deux, il faut que je suis séparé de mon ex, si je veux voir mes enfants, il faut que je sois sur tel bassin. Mmh. Et trois, horaire, il faut que je, tel jour à telle heure, je sois sorti pour récupérer mes enfants, par exemple, yes, à la crèche. Mmh. Donc ça, c'est les quatre piliers qui définissent un travail. Donc, travail égale métier plus finalité plus environnement de travail plus impératif de vie.
Yes.
Et donc, pour travailler pour l'orientation d'une personne, d'un talent, ce qu'on appelle un talent, on va travailler les quatre piliers pour définir quel est un travail qui va être aligné, faisable avec ses compétences, qu'est-ce qui est transférable, qu'est-ce qu'il peut apprendre et comment il peut l'apprendre, et réaliste, c'est-à-dire est-ce que c'est un marché porteur selon le territoire ou pas et quel est le risque que tu prends en ce sens.
Yes. Combien ça coûte un parcours chance? Combien ça coûte de suivre tout ce parcours? C'est quelque chose de standard ou le prix est adapté en fonction de la complexité du parcours de la personne?
Tu vois, on vend chance en B2C, donc à destination des individus, mm-hmm, qui est à 1 350 € et qui est éligible au CPF. Mm-hmm. Tu vois, le CPF…
Ouais, c'est un truc purement français, si je me trompe.
C'est purement français et chaque personne qui travaille en France obtient 500 euros ou 800 euros par an de crédit CPF qu'ils peuvent mobiliser pour chance ou pour d'autres choses. Ensuite, on le vend et aussi en ce qu'on appelle B2Gov, gouvernement. Donc, tu vois, avec le, on a des contrats avec les régions, la région Hauts-de-France, la région Normandie, on vient d'avoir hier la région PACA, la région L'Occitanie, qui en fait achètent des parcours chance pour les demandeurs d'emploi et demandeuses d'emploi du territoire. Ensuite, on a aussi travaillé avec encore avec le ministère du Travail. Ensuite, Pôle emploi, si un demandeur d'emploi demande à son conseiller Pôle emploi, sa conseillère Pôle emploi de faire chance, ils peuvent le leur financer. Okay, donc, tout ça, c'est GOV.
C'est super intéressant.
Ensuite, on a le B2B, c'est-à-dire qu'une entreprise peut choisir d'aider ses collaborateurs et collaboratrices à leur orientation professionnelle. Qu'est-ce que je vais faire après ? Est-ce que je vais faire de la mobilité interne ? Au-delà de juste faire le même job puis essayer d'être le poste de ton manager ou de ta manager, ça, c'est une croissance verticale. Il y a des croissances horizontales, il y a des croissances de biais. Ça, ça nécessite une orientation. Donc, mobilité interne.
Mais ils n'ont pas peur, les entreprises, parce qu'à l'issue du parcours, ça peut être il faut que je quitte cette boîte parce que je ne suis pas fait.
Et c'est possible que tu quittes la boîte, mais la personne, elle n'a pas attendu l'entreprise pour réfléchir à son futur et à potentiellement quitter la boîte. Tu vois, elle est capable de réfléchir par elle-même, elle est capable de faire.
Et peut-être c'est même sain pour les deux parties.
Exactement. Et ça s'organise, si c'est le cas, plutôt que la politique de l'autruche.
Ouais.
Donc, mieux vaut qu'une personne parte pour de bonnes raisons et qu'on organise sa transition, plutôt qu'une personne parte pour de mauvaises raisons parce qu'elle n'a pas réfléchi de la bonne des façons. Mmh. Tu vois ce que je veux dire.
Et de façon brutale, en plus.
Et de façon brutale, et allez, je plaque tout, je me casse, quoi.
Yes.
Et en plus de ça, on a créé un fonds de dotation qui s'appelle Chance pour tous pour donner des bourses aux personnes dont le dernier salaire est inférieur à 1400 euros net par mois, qui n'auraient pas pu se faire financer chance par tous les systèmes dont on a parlé avant, CPF, Pôle emploi, région, entreprise, voire ministère du Travail.
Comment est-ce qu'ils postulent ces profils-là ? Là, c'est des profils vraiment, peut-être qu'ils n'ont pas pu, dans les précédents jobs, cotiser assez d'argent dans la CPF pour se faire financer.
Exactement. Ou plus jeunes. Tu vois, si tu as de fait une seule année de
travail. C'est pas assez, quoi.
Exactement. Et donc, pour te donner un ordre de grandeur, qui est-ce que Chance accompagne ? On accompagne des personnes de 16 à 65 ans.
65 ans ?
Ouais, jusqu'à la retraite, quoi, en gros.
Pouah, ok.
Tu as 70% de femmes. Tu as une médiane qui est à 36 ans et tu as vraiment tout type d'âge. Tu as, grosso modo, je ne sais pas le chiffre exact, mais un tiers à Paris, deux tiers pas à Paris, majoritairement en France, mais il y a aussi des francophones qui sont hors de France, en Europe et ailleurs, mais c'est très majoritairement en France aujourd'hui. Et le background socio-économique, tu vois, le niveau de salaire, tu as 25%, et ça c'est dans nos statuts, qui ont un dernier salaire inférieur à 1400 euros net. Ça c'est pas dans nos statuts, mais c'est un fait, 25% au-dessus de 3000 euros et 50% entre les deux. Donc tu vois, tu as une représentativité de l'ensemble de la population avec une surpondération chez des cadres et une surpondération chez des publics plus vulnérables économiquement. Et toute la philosophie, c'est de dire: on fait le système d'orientation professionnelle le plus avancé au monde. La preuve, il est désirable par une élite qui a accès à tout et qui choisit Chance comme le meilleur système, et on le rend accessible à tout le monde. Ce n'est pas un truc low cost. Mmh. On fait ce qui se fait de mieux et on s'assure de le rendre accessible. C'est une logique de premium accessible.
C'est super intéressant tout ça. Tu peux me parler rapidement aussi de l'appel solidaire qui a été lancé il y a quelques temps.
C'est ce qu'il y a derrière moi, là.
Ouais.
Bien sûr, c'est le... Tu vois, au début de notre conversation, je te disais, l'engagement, il y a les barrières internes et les barrières externes. Les barrières internes, on les adresse par le parcours. Mais une fois que tu te souviens de ton projet de travail, Donc, métier, finalité, environnement de travail et impératif de vie qui est certifié après l'ensemble de ce parcours de 3 mois en distanciel. Encore faut-il que tu puisses entrer dans cette fonction.
Ouais.
Sauf que si tu as un parcours non linéaire et que tu n'as pas fait exactement le même job avant, comme on disait tout à l'heure, tu ne vas pas être nécessairement reçu en entretien. Et donc, le 31 janvier de cette année, on a lancé un appel avec une centaine de personnalités françaises à ouvrir son carnet d'adresses et ouvrir cette porte qui autrement aurait été bloquée pour les talents qui ont fait chance. Et en fait, ça a été très, très, très fortement suivi sur LinkedIn où on a démarré avec une centaine de personnes, on a terminé avec 2500, dont 4 ministres, dont des dirigeants de toutes les plus grandes boîtes françaises, des podcasteurs, des podcasteuses, des journalistes, des artistes, etc., qui se sont mobilisés en disant « Si chance certifie que même si cette personne a un parcours non linéaire, c'est le bon projet professionnel pour elle, alors moi, je vais donner ce petit coup de pouce et lui présenter la bonne personne qui pourra tout changer. Et ça, ouais, ce que je te montrais derrière pour celles et ceux qui regardent la vidéo, c'est en fait c'est une illustration de ça avec toute cette communauté. Et c'est ce qui nous amène à devenir aujourd'hui, non pas seulement une méthode, ce qu'on a construit depuis 7 ans, mais surtout une communauté d'entraide de personnes physiques, mais aussi de personnes morales, d'organisations, d'entreprises qui s'engagent pour permettre à tout un chacun de trouver sa place et à réduire les inégalités des chances. Et ça, c'est sous-tendu par des solutions de croissance professionnelle, d'orientation, par exemple tout ce qu'on a expliqué, mais aussi des solutions pour s'engager. Parce que tu vois, ces 2500 personnes, dans les faits, on leur a montré une solution sur comment est-ce qu'ils peuvent s'engager de manière altruiste, de manière efficace. Aussi, ce qui est très important, c'est beaucoup de gens qui sont prêts à faire des choses, mais ils ne savent pas exactement comment et ils n'ont pas beaucoup de temps. Et ils veulent s'assurer que ça sert à quelque chose, quoi. C'est pas juste pour se dire « je fais quelque chose de bien ». Et donc, chance aujourd'hui, c'est ça, c'est cette communauté, tu vois, maintenant, on a plus de 10 000 personnes qui sont des talents, qui sont des alumni, qui sont des signataires qu'on appelle les engagés, qui sont des entreprises partenaires, qui sont des pouvoirs publics et qui, quand on coordonne bien tout ce petit monde, on arrive à essayer de se soutenir de manière solidaire. Et c'est ça de plus en plus qu'on va pousser. Et tu vois là, par exemple, hier, on est en train d'accélérer très fortement où tu as une personne qui démarre le parcours toutes les 10 minutes.
Ah ouais.
C'est en train d'accélérer très, très fortement là.
Ça vient d'où ce trafic-là? C'est juste comme ça en organique ou il y a derrière, je sais pas?
T'as du trafic, t'as beaucoup de bouche à oreille. Hein. Beaucoup, beaucoup de gens qui, tu vois, c'est Guy, ou pour les auditeurs, auditrices, tu vois, c'est l'histoire du pote ou de la pote avec qui tu dînais il y a 6 mois, qui disait « mon job, j'en peux plus » et qui, 3 mois après, tu redînes avec lui ou avec elle et tu dis « bon alors, ça y est, t'as changé, t'as fait autre chose. »
On a tous vécu ça. On a tous vécu ça au moins une fois.
Tu vois, si les auditeurs et auditrices se posent 2 secondes, là, on va donner 2 minutes, 1 minute de silence.
Ouais.
Réfléchir à ces personnes et se dire « ah ouais, ouais, ouais.
Ah, c'est trop parlant, on a tous vécu ça au moins une fois. » Yes, et pour…
C'était pour ses potes, et c'est ce bouche à oreille, tu vois, où les gens se disent « bah, ok, au lieu de se plaindre, viens réfléchir de manière structurée et prends en main ton futur, quoi, en fait. »
C'est hyper puissant, chaque 10 minutes, c'est vraiment… Wow, bravo, hein.
C'est toute l'équipe que je suis pour une petite partie.
Bah, et le parcours chance, il est exclusivement digital, j'imagine. Ça dure combien de temps?
C'est 30 heures. C'est tout à distance, mais ce n'est pas déshumanisé puisque tu as ton ou ta coach choisi sur la base de ta personnalité. Puis ensuite, tu as les 13 personnes de la communauté avec qui tu vas interagir aussi. Et ensuite, il y a plein d'autres choses communautaires. C'est cette appartenance à cette communauté de plus de 10 000 personnes dont je te parlais tout à l'heure.
Yes. Et tu peux nous briefer un petit peu rapidement comment le Mixtape Psycho se fait sur la plateforme Chance? Parce que j'imagine forcément derrière, il doit avoir. Déjà, vous êtes combien dans l'équipe et sur la partie tech?
Là, on est presque 100 dans l'équipe permanente. Et ensuite, tu as 200 coachs partenaires qui sont free, qui ne sont pas employés à temps plein de Chance.
D'accord.
Mais comme je te disais, on ne définit pas Chance comme il y a une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui vient autoriser le développement de la communauté, mais Chance, c'est les 10 000 personnes en fait. C'est pas parce que c'est grâce aux actions de toutes ces personnes qu'on est capable ensemble de délivrer notre promesse et donc d'essayer petit à petit d'améliorer l'égalité des chances pour tout le monde.
Ok. Pour le déploiement de chance au début, vous avez levé à peu près combien et comment est-ce que vous avez déployé ça? C'était principalement pour la tech ou alors pour les équipes de coach? Tu peux nous briefer rapidement là-dessus si c'est quelque chose que tu parles ouvertement?
Bien sûr, on a eu plusieurs levées de fonds. On a aujourd'hui, je sais pas, peut-être presque 200 actionnaires différents.
Ah ouais.
Et tous les
Des
employés de
institutionnels
Chance,
ou des fonds?
il y a des fonds et il y a des individus, je vais t'en parler dans 2 secondes, mais le premier actionnaire de Chance, c'est les employés. En fait, tous les employés sont actionnaires de Chance et on a une structure holding qui s'appelle Team Chance,
OK.
qui est le plus gros actionnaire de Chance. Et à côté de ça, tu as plein d'ambassadeurs actionnaires.
C'est à peu près combien, vous avez attribué à peu près combien de pourcentage? C'est quoi? C'est le système de BSPCE ou alors
On est en train de mettre en
mix?
place des BSPCE, mais c'est un système plus complexe, c'est des actions, vraiment. C'est
C'est
une
vraiment des
holding.
actions quoi, c'est-à-dire ils ont un pouvoir de décision au même titre que toi ou d'autres.
Moi, je suis dedans aussi. Je suis dans la holding avec tous les employés.
Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? On dirait que tu prépares. En fait, tu es prêt en fait à sortir complètement de la boucle et de laisser le truc vivre par soi-même.
Ben, j'ai pas prévu de disparaître demain de chance parce que j'ai encore envie d'y passer les 15
Ouais, je
prochaines années.
comprends,
On
mais
va
je veux
encore
dire dans
bouger.
l'éventualité où ça va arriver, on dirait que tu prépares en fait l'avenir, ben que c'est quelque chose qui est au-dessus en fait de ta personne et puis qui a pour
Bien
vocation
sûr.
de.
Bien sûr. Et sur la détention, tu vois, moi, un rêve, j'espère qu'on va arriver à faire ça, c'est en fait que chance soit détenue par la communauté. C'est-à-dire qu'on puisse créer des structures où ces 10 000 personnes détiennent une petite partie de chance, tu vois. En fait, que chance appartienne à des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Tu vois, la logique du social business, moi, je n'ai pas monté cette boîte. Ce que je te raconte, ce n'est pas juste du chocolat sur les brocolis, quoi.
Ouais.
C'est pas, on ne vient pas rajouter du social washing par-dessus pour faire beau. L'intention de la création de cette structure, j'en ai rien à foutre de monter une start-up. Ce n'est pas mon objectif dans la vie, tu vois. Mon objectif dans la vie, il est la finalité. C'est d'essayer de faire un truc qui est utile pour les personnes qui n'ont pas les mêmes chances que moi. Et du coup, le meilleur véhicule pour ce faire, comme on devait développer de la tech et que ça coûte de l'argent et qu'il faut des CapEx, c'était de créer cette entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et quand tu vois, quand tu penses comme ça, et donc, comme je te disais tout à l'heure, social business, c'est une entreprise qui doit être profitable, qui doit pouvoir ramener du retour aux différents actionnaires qui prennent des risques, qui doit croître et qui doit avoir une croissance exponentielle. Mais ça n'empêche pas que c'est là pour servir une finalité, un objectif social qui est au-dessus.
Mais en termes de conflit d'intérêts aussi, c'est hyper intéressant. Ça aligne, ça permet de réaligner complètement tout le monde par rapport à la mission de l'entreprise. Du coup, vous avez prévu de faire une nouvelle levée ou ça, tu as des pépites à nous partager?
On a fait une dernière levée il y a 6 mois, tu vois, avec un fonds d'impact qui s'appelle Citizen Capital, qui est le fonds historique d'impact depuis, je sais pas, 20 ans. Un fonds d'éducation français qui s'appelle Educapital, qui a un fonds d'impact à l'intérieur. Et puis, différentes personnalités qui se sont engagées comme actionnaires ambassadeurs. Tu vois, je pense à Philippe de Chanville, qui est le CEO de Mano Mano, à Thibault de Back Market, à Alexandre de Malte, à Charles de Alan. Tu vois, tout ça, c'est les start-upers qui s'engagent. Ensuite, Jean-Bernard Léville, CEO d'EDF. Ensuite, tu vois, différentes personnalités qui s'engagent aux côtés de Chance financièrement, mais aussi par leur réseau, leur crédibilité, pour, parce qu'ils se disent, mais en fait, si ça marche, tout ça, c'est génial quoi, pour la société. Et donc, on va continuer cette philosophie d'avoir de plus en plus de personnes qui sont membres de cette communauté avec différentes casquettes. Un jour, tu es talent, tu vois, mais demain, tu vas être employeur. Après-demain, ou en même temps, tu vas ouvrir une porte à quelqu'un d'autre. Tu vois,
c'est hyper puissant, franchement. C'est limite, on n'est pas loin de l'économie circulaire. Là, donc c'est vraiment, vraiment puissant ce truc. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines années. Et pour ce véhicule-là, justement, vous avez prévu à peu près combien de pourcentage de participation dans la Captable?
Pour quel véhicule?
Le véhicule où les différents collaborateurs de Chance sont...
Ça, c'est un tout petit peu moins que la moitié.
D'accord.
Aujourd'hui, tu as grosso modo la moitié qui sont les employés, la moitié qui sont tous les actionnaires ambassadeurs.
Et jusqu'où est-ce que tu veux amener Chance?
En fait, on a l'opportunité, pour ne pas dire la chance, c'est un mauvais jeu de mots, le problème qu'on veut essayer de résoudre, il est infini. Mm-hmm. Tu vois, avant qu'il n'y ait plus d'inégalité des chances, toi et moi, on sera très probablement plus sur cette terre. Donc, tu vois, c'est un problème suffisamment complexe pour y dédier des dizaines et des dizaines d'années. Mmh. Et donc, on va continuer de l'intention, c'est de continuer à développer Chance. Et, tu vois, on est en train d'avoir une traction de plus en plus forte. Mmh. Et c'est génial. Mais aujourd'hui, on n'est qu'en France. Je ne sais pas raconter tout le parcours de Chance où on était au Brésil pour travailler avec les jeunes des favelas.
Ouais, à Rio. Et en plus, je pense qu'avant le Brésil, tu avais prévu plutôt lancer au Nigeria. Je me demande bien pourquoi. Ça devait être une réelle opportunité et un gros impact parce que, c'est un problème qui est international. Mais peut-être tu vas me dire, c'est quelque chose qui est dans les coulisses peut-être de se déployer plus tard. Je sais que vous avez eu quelques participants, notamment au Cameroun chez moi et au Liban. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez réitérer peut-être dans les années à venir, donner l'opportunité aux autres pays émergents de pouvoir profiter de cette technologie psychotechno, je ne sais pas comment je peux appeler ça.
Psytech, on a appelé ça la psytech. Okay. Bien sûr. D'abord, tu vois, quand on a, en 2018, on a changé toute la stratégie de Chance. On était 60 dans la boîte, donc 40 au Brésil, 20 en France. Mmh. Moi, j'étais basé au Brésil. Et je fais un pivot stratégique très fort et on a dû licencier 80% de la boîte. Et moi, j'ai fait un burn-out à ce moment-là. Et on a déplacé le siège de Rio à Paris. Et on a tout remonté à 10 depuis Station F, depuis l'incubateur de Facebook, à partir de mi-2018. Et on a tout reconstruit Chance comme ça. Et tu vois, on parlait des profils non linéaires pour les gens.
Quand même, licencier autant à l'américaine, c'est dur quand même de licencier. Moi, je l'ai déjà fait 2-3 fois. C'est vraiment dur. Autant de personnes, comment est-ce que tu as fait? Ou tu as délégué? Tu as licencié toi-même?
Non, surtout pas. Il faut assumer. Et en fait, ce que j'ai promis à l'équipe brésilienne au moment où j'ai dû annoncer ça en pleurs, c'est que si tout le boulot et les efforts qu'ils ont fait pour Chance, pour pouvoir essayer de contribuer au développement des personnes plus vulnérables économiquement, en particulier dans les favelas, dans leur pays, le fait de réduire la taille de la boîte pour pivoter, c'était en 2018 la seule voie pour sauver l'action de Chance. Et deux, je me suis engagé à ce qu'on retourne au Brésil pour que, en fait, tout ce qu'on a fait et tout ce qu'ils ont fait serve aussi les Brésiliens à nouveau. Donc, on va y retourner, c'est sûr et certain. L'action, c'est quand, mais on va y retourner. Et donc, ensuite, tu parlais de l'Afrique, l'Afrique francophone en particulier, puisque aujourd'hui, Chance est en français. Par le passé, on était en portugais et en français. Il y a la question de l'adaptation à l'anglais pour le lancement pour les US, l'Angleterre ou autre. Mais évidemment qu'aujourd'hui, il y a des personnes francophones qui ne sont pas en France et pas en Europe. On parlait ponctuellement du Cameroun, du Liban, où je sais qu'il y a eu des talents qui venaient du Cameroun ou du Liban, mais il y en a probablement d'autres, et je ne sais pas, parce que on est à 8-9 000 personnes, mm-hmm. donc je, évidemment, ne connais pas tous les parcours. Mais on peut et on veut essayer de développer des partenariats. Tu vois, un souhait que j'aimerais beaucoup, c'est essayer d'avoir des partenariats avec des organisations internationales, en particulier l'AFD, qui pourraient nous aider pour acheter certains parcours. Ouais. Très présents au Cameroun. D'ailleurs, on va reparler après, si tu veux, après le podcast, de voir si on peut réfléchir ensemble par rapport au Cameroun, si on peut essayer de faire un lancement ou des expérimentations de chance là-bas. On rediscute de ça après.
Bien sûr.
On racontera aux auditeurs dans le futur comment est-ce qu'une discussion dans un podcast peut avoir un impact sur des milliers de personnes quelques années plus tard.
Bien évidemment. Je sais que c'est un peu short au niveau du time. Est-ce que tu permets que je te pose les questions de fin rapidement, ensuite tu te libères. On va aller très rapidement. C'est quoi les parties les plus difficiles de ton job?
C'est faire fonctionner, il y en a deux, faire fonctionner une équipe qui est diverse. Tu vois, le fait d'avoir, il y a beaucoup de dimensions dans Chance, tu as l'aspect psychologique, tu as l'aspect technologique, c'est deux mondes extrêmement différents. Donc, faire travailler ensemble à toute vitesse, parce qu'on va très vite en recrutant aussi très vite, il y a la vitesse, la diversité et la pression. Et la nouveauté des nouvelles personnes qui s'intègrent. Donc, faire travailler l'équipe, c'est extrêmement difficile, je trouve. On y arrive et je suis super fier de notre équipe. Mais c'est difficile, tu vois. Je peux pas te dire que tout roule tout seul et qu'il suffit de mettre un objectif et qu'on s'aligne tous. Il faut travailler, s'écouter, se comprendre, débattre, se respecter, etc. Essayer empathiquement de comprendre quelle est la perspective de l'autre qui vient d'un monde très différent du tien. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième, c'est que tu l'as compris. Il y a une chance, c'est un système, en fait. Et avec différentes parties prenantes, beaucoup de parties prenantes différentes dont on a besoin pour pouvoir réaliser la mission. Donc, il y a une complexité là-dedans. Et embrasser cette complexité sans être simpliste, arriver à naviguer dans cette complexité et faire naviguer tout le monde dans cette complexité, c'est un défi également.
Yes. Et comment est-ce que toi, tu progresses aujourd'hui?
Alors, moi, moi, je travaille sur deux trucs, je peux te dire de manière très transparente. Aujourd'hui, tu es accompagné par une mentor, d'une part, slash coach, sur deux défis qui sont les miens. Un, je suis plus dans le rêve que dans le réalisme. Et donc, il est hyper important de m'assurer que quand il y a une idée ou un plan, il est effectivement réalisable. Et donc, moi, me forcer à vérifier dans les faits la réalisabilité d'un plan. Et deux, comme on travaille en équipe, de toujours penser qu'avant de prendre une décision, le confronter avec d'autres personnes qui ont la réalisabilité dans leur caractère. Et donc, tu vois, je travaille beaucoup à me mettre des barrières à moi-même ou mettre des garde-fous quand il y a un projet un peu fou, de s'assurer un peu par moi-même et surtout par d'autres autour que c'est réalisable. Le deuxième, c'est la gestion des émotions où tu vois, il y a beaucoup d'infos qui arrivent. Positive, c'est super, c'est très facile de gérer une émotion positive. Négative, c'est plus difficile. Et donc, de prendre ces émotions et de les mettre à distance. Tu vois, se séparer, ne surtout pas réagir immédiatement à une information négative, la prendre à distance et dire c'est un fait. Ensuite, factuellement, comment est-ce que je vais réagir par rapport à ça? Et le troisième aspect, c'est je suis quelqu'un d'intuitif et j'aime le côté créatif des choses. Et donc, par rapport à un problème, d'essayer de ne pas tout de suite balancer une solution, mais écouter, notamment quand il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, de manière très empathique et très honnête, ce qu'ils pensent sans biaiser par rapport à ce que je pense. Et donc, d'avoir une honnêteté intellectuelle dans les décisions. Et tu vois, en tant que dirigeant d'entreprise, tu as un pouvoir de décision. Mais derrière, tu as pour paraphraser quelqu'un de fort célèbre qu'on a tous cité, de grandes responsabilités, notamment d'honnêteté intellectuelle, et donc de ne pas biaiser par rapport à tes intuitions, et de, quand tu prends une décision, être très honnête en disant, si je suis ce qu'était mon intuition, ce n'est pas parce que c'était mon intuition ou mon idée, c'est parce qu'effectivement, ça semble, de la manière la plus objective possible, ce qui n'est jamais 100% possible, la bonne décision à prendre. Yes. Voilà les trois trucs sur lesquels je travaille.
C'est hyper intéressant. Tu penses que tu peux nous glisser le nom de ta coach? On peut la citer ou tu as
Oui, c'est Arantxa Balson, que je remercie du fond du cœur et qui est une
c'est quoi son nom
depuis le premier jour. Balson, B-A-L-S-O-N.
Parfait, on passe un coucou. Yes, et peux-tu nous partager un de tes plus gros regrets? Ce qui est partageable. Hein.
En fait, on a fait plein de... je te dirais que les trois sujets sur lesquels... Ce que je regrette le plus, c'est que les trois sujets sur lesquels je travaille maintenant, j'aurais mieux fait d'en avoir conscience le plus tôt possible dans ma vie et de commencer à travailler le plus tôt possible dans la vie. Ça, c'est le plus gros regret. Ensuite, tu sais, on a fait plein d'erreurs, mais ce n'est pas des regrets. Tu es beaucoup plus malin après. Et puis, et mécaniquement, quand tu crées un système qui est complexe, on a fait ces erreurs, d'autres auraient fait d'autres erreurs. Le but, c'est d'apprendre de tes erreurs. La connerie, c'est de refaire la deuxième erreur une deuxième fois. Et donc, même, tu vois, ce qui était une catastrophe, qui est le pivot avec ce licenciement et moi, mon burn-out, mais ça a pris, ça a donné une résilience à chance infinie. C'est-à-dire que, tu vois, les petites barrières qui arrivent demain, on en a vu d'autres, quoi. Ouais. Quand tu dois retourner toute une boîte, c'est autre chose. Et donc, in fine, tu vas le prendre comme des faits et essayer d'agir par rapport à ça. Donc, ce n'est pas vraiment des regrets.
Yes. Et tu aurais...
Des moments durs, mais pas nécessairement des regrets.
Yes. Tu aurais une big fierté à nous partager, une de tes plus grosses fiertés?
La communauté et l'équipe de chance, c'est sûr. Le fait de se dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui se mobilisent de façon altruiste et qu'il y en a de plus en plus, ça, c'est une super fierté. Et c'est le début. Et c'est une fierté et c'est aussi une reconnaissance très, très forte.
Yes. Est-ce que tu aurais un bouquin à nous recommander, à part les bouquins de Mohamed Younous qu'on va forcément mettre dans les commentaires, dans les descriptions de l'épisode?
Et le meilleur de Younous, c'est « Vers un monde sans pauvreté » en français et « Banker to the Poor », qui est son autobiographie qui est géniale, à partir de laquelle il a reçu le prix Nobel de la paix. Il y en a un qui est un peu lourd, mais qui est génialissime, qui est de Pierre Rosanvallon, qui s'appelle « Les épreuves de la vie », qui est extraordinaire. Extraordinaire, qui est en fait une réflexion par rapport à… qui est sorti il y a 6 mois, qui est une réflexion en disant « Ok, le drame du XXIe siècle, c'est le populisme. C'est un des drames du XXIe siècle. Aujourd'hui, en France, il y a un énorme ressentiment des Français et des Françaises. Un ressentiment, un sentiment d'injustice, un sentiment d'incompréhension, un sentiment de manque de respect, un sentiment de discrimination, etc. Mais qui est extrêmement diffus et qui est très différent d'une personne à une autre. Et donc, il est nécessaire d'essayer de, si on veut, il n'y a pas de solution miracle pour tout le monde. Et ça va faire qu'aller vers davantage de populisme et davantage de complotisme et d'insatisfaction, etc. C'est une cata, en fait, pour notre société. Donc, sa thèse, c'est de dire il faut permettre aux Français ou aux Françaises de comprendre en profondeur quels sont les faits derrière ces ressentiments et deux, quelles sont les émotions par rapport à ces faits. Et ça, de manière individuelle, si ça te rappelle un petit peu quelque chose, hein, vaguement. Tu vois. Et deux, il dit, à partir de là, il faut traiter au niveau individuel cette compréhension et ensuite, on peut faire des choses de manière systémique. Et donc, moi, ça me parle énormément. Je ne l'ai jamais rencontré. J'espère un jour qu'on va pouvoir l'associer à ce qu'on fait parce que sa thèse dans son bouquin, c'est très intéressant. C'est une analyse des gilets jaunes. C'est une analyse de tout ce qui se passe et cette évolution des 20 dernières années en France. Et c'est assez extraordinaire.
Yes.
Donc, je recommande ce bouquin très, très fortement.
Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer?
Oui, réfléchissez à votre utilité. C'est qu'est-ce que je suis sur cette terre, pourquoi, en fait? Au-delà de me regarder le nombril et de me servir à moi-même, je suis là pourquoi? Et du coup, une petite suggestion, c'est de réfléchir avec cette grille qu'on a développée chez Chance, qui est la grille d'utilité sur le sens, qui est en fait pour toi, Guy, pour moi, pour un auditeur, une auditrice, on cherche tous du sens. La question, c'est que le sens pour chacun de nous quatre est différent. Et donc, on a défini quatre niveaux d'utilité. L'utilité vis-à-vis de deux, trois personnes, qui peuvent être tes enfants, ton conjoint, ta conjointe ou une personne au travail. Mmh. Donc, premier niveau d'utilité. Deuxième niveau d'utilité, l'utilité vis-à-vis de dizaines de personnes. C'est l'utilité de la manager, du manager, tu vois, qui va sentir ça. Troisième niveau d'utilité, niveau d'utilité pour la société. Quatrième, la planète. Et en fait, si tu n'es pas complètement égoïste, les quatre niveaux d'utilité sont importants pour toi. Sauf que si tu as 10 boules, nous quatre, l'auditrice, l'auditeur, toi et moi, les positionner à différents endroits, selon qui on est et selon le moment de vie aussi, parce qu'on évolue les uns et les autres selon le moment de vie. Et donc, mon petit conseil, cette micro-activité, c'est de se dire sur ces quatre niveaux d'utilité, 2-3 personnes, dizaines de personnes, société et planète, si vous avez 10 points, où est-ce que vous les allouez? Et à partir de cette réflexion, quand vous les avez alloués sur ces quatre niveaux, est-ce que la façon dont vous organisez votre vie permet de servir l'utilité souhaitée? Sinon, réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez ajuster ça. Et si oui, c'est génial, foncez et vous faites des trucs extraordinaires pour le monde autour de vous.
Nice. On te contacte où, Ludo?
On me contacte sur le site de Chance, chance.co, ou sur LinkedIn, Ludovic de Gromard.
Parfait, on va mettre les liens en commentaire. Écoute, Ludo, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard?
Un débrouillard, c'est quelqu'un qui accepte ses faiblesses. C'est pas quelqu'un qui a pas peur, c'est pas quelqu'un qui doute pas, mais c'est quelqu'un qui accepte sa complexité, la complexité du monde, et qui arrive à naviguer de manière optimiste. Et ça, c'est pas que les entrepreneurs, on a tendance, tu vois, à sortir des figures en disant ah ouais, à héroïser, en essayer de trouver des figures de proue, mais en fait. Tu vois, Chance, la réussite de Chance aujourd'hui, c'est pas moi. C'est évidemment que j'ai fait des trucs et j'ai réussi des trucs et que j'essaie de contribuer et que j'ai contribué, mais c'est tous les jours plein de débrouillardes dans cette communauté qui se bougent et on essaie de rendre les gens, les talents qu'on accompagne, débrouillards. Et donc de les aider à naviguer leur complexité à la complexité du monde.
Yes. Écoute, Ludo, je te remercie déjà pour ton temps, pour le partage, pour l'énergie, pour la force. Je te remercie pour Chance, même si ta modestie te pousse à dire que c'est un merci à tout le groupe, à tous les collaborateurs, les sympathisants qui travaillent autour de Chance. Merci pour tout ça. Moi, j'ai foi en ce projet et je ne sais pas pourquoi, je le sens hyper, hyper bien pour des pays émergents, des pays comme le mien d'où je suis issu. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner comme impact et ce rééquilibrage. Moi, je vois comme il y aura comme une sorte de rééquilibrage, même si c'est d'autres générations après nous qui vont pouvoir porter ces bénéfices-là. Au moins, il y a quelque chose qui est initié. Je te remercie pour tout ça et je te dis à très vite.
Merci beaucoup de ton invitation, Guy. Et je compte sur toi pour devenir un engagé. Je vais te donner le lien. Et puis, si ça intéresse les auditeurs, auditrices, de s'engager pour ouvrir leur carnet d'adresses aussi pour tous les talents, ça serait super. Ça marche? T'es OK pour le signer?
Volontiers, je m'engage publiquement. À très vite, Ludo.
À très vite. Bye bye. Merci de ton invitation.